Donc nous sommes ici avec M. Abdulaziz Tchoï, chef du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en RDC. Et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vient de publier un nouveau rapport qui fait état de violences en Ituri qui pourraient constituer de possibles crimes contre l'humanité. Que nous dit concrètement ce rapport?
Merci. Le rapport présenté aujourd'hui porte sur les violences de grande ampleur ainsi que sur les violations et atteintes aux droits de l'homme commises dans le territoire du Kougou, province de l'Ituri, dans un contexte de tension interethnique entre les communautés hindoues et Emma, notamment. Le rapport couvre la période allant de décembre 2017 à septembre 2019 et il est basé sur des informations collectées par le bureau conjoint, notamment à travers 10 missions d'enquête que nous avons organisées sur le terrain. Ces enquêtes ont permis d'établir qu'entre décembre 2017 et septembre 2019, au moins 701 personnes ont été tuées, 168 autres blessées et 142 victimes de violences sexuelles au cours de vagues de violences successives. Je dois préciser que la majorité de ces victimes appartiennent à la communauté Hema, dont 431 membres ont été tués, 74 blessés et 108 victimes de violences sexuelles. Les vagues de violences ont évolué, ce qui se fait indique le rapport. La première vague de violences va de décembre 2017 à mai 2018 et a été caractérisée par des affrontements intercommunautaires entre des membres de communauté Hema et Hindou. En septembre 2018, les violences ont repris sous la forme d'une série d'attaques contre les forces de défense et de sécurité congolaises par des assaillants hindous. Ces attaques ont été suivies d'opérations de riposte par les FARDC. À partir de juin 2019, une troisième phase a été observée avec des attaques, cette fois-ci, beaucoup plus organisées, beaucoup plus systématisées contre la communauté Hema, commises également par des assaillants hindous, sans toutefois générer de riposte de la part de la communauté Hema.
Mais quand le rapport parle d'une organisation et d'une planification grandissante des vagues d'attaques menées par des assaillants hindous visant des Hema, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui essaie de montrer la préméditation des crimes commis?
Absolument. Nous avons noté à partir de septembre 2018 un niveau d'organisation et une planification beaucoup plus importante des vagues d'attaques par des assaillants hindous et qui visaient des Hema et des membres d'autres communautés ethniques telles que les Alours. C'est là où nous avons commencé à noter une évolution dans la nature du conflit et des caractéristiques associées aux auteurs des attaques qui permettent de qualifier ces violences-là d'atteinte aux droits de l'homme attribuables à un groupe armé. Nous avons, à partir de septembre 2018, observé un début de revendication de ces attaques-là par un groupe que nous avions eu des difficultés à identifier, mais qui finalement est apparu au grand jour avec un individu qui s'est proclamé l'idée de ce groupe armé qui se faisait appeler Codeco. Il est vrai que vers la fin de l'année 2019, nous avons eu plusieurs groupes qui ont revendiqué ces attaques-là, mais c'est qu'il reste constant. C'est qu'il y a aujourd'hui un groupe nommé Codeco qui continue à perpétrer des attaques et qui continue à attaquer des membres des communautés hindoues, mais également de s'affronter avec les FRDC sur le terrain, dans le territoire du Kougou.
Mais qu'est-ce qui fait que ces violences pourraient constituer des crimes contre l'humanité?
Ces violences pourraient constituer des crimes contre l'humanité en raison du caractère organisé, planifié et le fait effectivement qu'elles visent une communauté en vue évidemment d'infliger des pertes. Il y a eu des atteintes au droit à la vie, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, notamment des enfants et des femmes, qui ont été décapités, mais également il y a eu un nombre assez élevé de violences sexuelles. Il y a en fait un ensemble de critères qui entrent dans la caractérisation des crimes contre l'humanité, ce qui est réuni dans le cadre de ce rapport, des attaques que nous avons documentées dans le territoire du Kougou et qui, de façon très claire, pourraient être, évidemment, dans le cadre d'une enquête judiciaire, être qualifiées comme telles de crimes contre l'humanité.
Monsieur Tchoï, est-ce que ces attaques, par exemple, au-delà de crimes contre l'humanité, pourraient constituer aussi des crimes de génocide si l'on sait que cela reflète, selon le rapport, la volonté des assaillants de traumatiser de façon durable les populations Hema et de les contraindre à fuir?
Vous savez que la frontière est très mince entre la qualification des crimes, la catégorisation des crimes internationaux et le crime pour les éléments du constitutif du crime de génocide sont quelquefois moins difficile et moins compliqué à réunir. Ce qui manque dans cet aspect-là, et ce que nous avons souligné sur le plan de rapport, c'est que nous n'avons pas pu, dans le cadre de nos enquêtes, réellement avoir des éléments probants qui puissent montrer effectivement qu'il y a une volonté réelle de la part des assaillants de détruire une partie ou en totalité la communauté Hema. Je voudrais juste souligner la raison pour laquelle nous avons été un peu plus prudents concernant la qualification des crimes de génocide. c'est principalement qu'il y a d'autres communautés, l'hindou et Emma, qui continuent à cohabiter de façon pacifique dans le territoire de Djibou et au-delà dans toute la province de l'Ituri. Et il faut aussi ajouter qu'en réalité, au-delà des communautés, des membres de la communauté Emma, des membres d'autres groupes armés, d'autres groupes ethniques ont été également attaqués et tués. Il s'agit de la communauté Alour, qui a subi également des pertes importantes, mais certainement pas au même niveau que les membres de la communauté Emma.
On a constaté également que malgré le déploiement des forces de l'armée et de la police congolaise à partir de février 2018, cela n'a pas pu éteindre ces violences et pire, certains soldats et policiers qui ont été déployés dans cette zone sont accusés d'exactions. Qu'en est-il exactement?
Oui, nous avons effectivement documenté les violations des droits de l'homme attribuées aux FADC et aux PNC qui ont été déployés dans le territoire de Djibou pour sécuriser et protéger les populations contre les attaques des assaillants hindous. Les forces de défense et de sécurité ont été également auteurs de violations des droits de l'homme. Sur toute la période considérée, les FADC ont commis 109 violations des droits de l'homme, avec 27 victimes d'exécution extrajudiciaire, dont 18 hommes, 6 femmes et 3 enfants. Donc, vous voyez, c'est quand même assez problématique. Et ces faits ont été portés à l'attention des autorités congolaises qui ont mis en place une commission conjointe composée d'éléments de la justice, des magistrats et juges, de la justice militaire et civile, qui sont en train de travailler sur ces allégations-là. Et je dois dire qu'un certain nombre d'auteurs ont été mis aux arrêts. Il y a également effectivement des procès qui se sont tenus avec le soutien des équipes des Nations Unies.
Dernière question, M. Choi, face à ces crimes interethniques, que recommande finalement l'ONU?
Ce que nous recommandons, c'est qu'il faut surtout retenir que c'est un conflit, c'est un vieux conflit qui a ressurgi. Je dois juste rappeler que le conflit de l'Ituri est malheureusement de triste mémoire très très connue. C'est le conflit qui a valu à la Cour pénale internationale d'intervenir pour initier des poursuites contre des faits de guerre des l'hindou, mais également Emma. Donc, je pose Kota Ganda aujourd'hui devant la CPI, mais également d'autres avaient été, Selma Katanga et d'autres avaient été poursuivis aussi dans le cadre du même conflit et qui, anciennement. Donc, si ce conflit ressurgit, il est important de retenir qu'il est la nécessité d'agir pour adresser les racines du conflit. Quelque part, oui, effectivement, la lutte contre l'impunité se poursuit et doit être renforcée, mais il faut également travailler à des mécanismes de justice de transition, par exemple, qui pourraient davantage se pencher sur la cause véritable du conflit, qui est l'accès aux ressources en général, mais surtout à la terre. Et enfin, travailler à créer de la cohésion entre les communautés, à réconcilier les communautés qui ont été divisées par ces conflits, parce qu'autrement, le conflit va être perpétué. Il y a aussi des besoins humanitaires extrêmement importants actuellement dans la zone, parce que les combats se poursuivent. Avec le groupe armé dont j'ai parlé, avec les FRDC, il y a encore beaucoup de patentes humaines. Il est important de mener des efforts pour amener ce groupe armé à désarmer et à rejoindre un processus de paix, mais également de répondre à ses actes en rapport avec ce qui a été documenté comme atteinte aux droits humains. Donc, le rapport identifie et énumère une série de recommandations à l'endroit des autorités congolaises, de la communauté humanitaire, mais également de la MONUSCO et de façon beaucoup plus générale de la communauté internationale. Il est important d'agir et de ménager comme effort pour rétablir, restaurer la paix et permettre à la province de Djibouti, notamment le territoire de Djibouti, de retrouver la paix.
Merci beaucoup.